Chris Lumumba dans quelques instants, le journal avec Eric Manirakiza.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 14 décembre 2022. Avec vous, Eric Manirakiza, voici d'abord le sommaire. Sommet des dirigeants africains à Washington, le président Biden plaide en faveur d'un siège africain au Conseil de sécurité de l'ONU et d'une représentation formelle de l'Union africaine au G20. En exclusivité, le président Bazoum du Niger.
La violence terroriste qui prévaut dans le Sahel a partie intimement liée avec le changement climatique parce qu'elle remet en cause le mode de vie pastoral.
Le président de l'Union des Comores est également à Washington.
Mais je dis que ce n'est pas vrai. J'en ai discuté avec beaucoup d'autorités américaines. Il y a eu des rapports qui ont été faits, qui n'ont pas été fondés. Donc nous, on a été victimes de ces rapports-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup à faire.
Le leader de l'opposition au Tchad, Succès Matra. Il se trouvait devant la Maison Blanche dans une manifestation de la diaspora africaine. En RDC, le gouvernement décrète 3 jours de deuil national en hommage aux 120 personnes péries à Kinshasa dans des inondations. Le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde a atteint un nouveau record selon le bilan annuel de RSF publié ce mercredi. À la croisée des rêves, la France de Kylian Mbappé tenante du titre et le Maroc porté par un continent et une marée rouge de supporters confrontent leur destin ce soir dans la deuxième demi-finale du Mondial 2022 avec en jeu la finale contre l'Argentine de Lionel Messi, tombeur de la Croatie. Près d'une cinquantaine de dirigeants africains en sommet de 3 jours dans la capitale américaine. Le président Biden, qui ne s'est pas encore rendu en Afrique subsaharienne depuis le début de son mandat, doit intervenir à tout moment et demain jeudi devant le sommet. Je suis en ligne avec notre envoyé spécial au Convention Center, ici à Washington, où se déroule ce sommet. Abdourahmane Dia, bonsoir.
Bonsoir Eric.
D'un moment à l'autre, le président Biden doit prendre la parole devant ce sommet, Abdou.
Effectivement, on attend que le président américain s'exprime à ce sommet. Il n'était pas là hier. Le secrétaire d'État et la vice-présidente et également le secrétaire d'État, le Pentagone, le patron du Pentagone était tous là hier, mais le président Biden fera son apparition tout à l'heure. On s'attend à ce qu'il fasse un discours pour clôturer ce forum des entreprises qui a été aujourd'hui la principale attraction. On a beaucoup parlé à faire aujourd'hui, donc le président sera là. On s'attend à ce qu'il plaide en faveur d'une place plus importante de l'Afrique sur la scène internationale, en faveur, comme vous l'avez dit, d'un siège permanent au Conseil de sécurité, mais également une place au sein du G20.
Le président Macky Sall de l'Union africaine s'est déjà exprimé.
Absolument, et c'était un appel du président de l'Union africaine Macky Sall au mois de septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, la 77e. Donc si effectivement le président Biden confirme la position américaine sur cet appel, je pense que le continent s'en réjouirait.
Abdou, un forum des entreprises a eu lieu en marge de ce sommet avant cette prise de parole attendue du président Biden.
Effectivement, comme je le disais, aujourd'hui, c'est vraiment la journée des affaires et des investissements avec ce forum des entreprises. Plusieurs compagnies américaines ont annoncé des accords, des compagnies comme Pfizer ou Cisco qui vont donc investir en Afrique. La Côte d'Ivoire, par le biais de son premier ministre Patrick Hachi, a aussi appelé les entreprises américaines à investir dans son pays. On appelle certainement qu'on va entendre également d'autres dirigeants leaders africains. Alors, un des panels les plus en vue aujourd'hui était consacré à l'initiative de l'administration Biden appelée Prosper Africa, dont l'objectif est de renforcer et de dynamiser l'engagement des États-Unis en faveur des investissements publics et privés en Afrique. L'USAID et 17 autres agences ont donc pour but de favoriser les investissements qui seront chiffrés à plusieurs milliards de dollars dans les années à venir.
Merci à Abdourahmane Dia pour toutes ces précisions. Je signale qu'en marge de ce sommet qui se tient ici à Washington, quelques Africains sur le continent ont des doléances à adresser au président américain Joe Biden. Suivez.
Mon message aux États-Unis d'Amérique et au président Biden est de travailler en réponse à la crise climatique. Par ce message, nous appelons tous les dirigeants à investir beaucoup dans l'adaptation de l'énergie durable qui peut être utilisée pour la cuisson propre, en particulier dans les pays africains où les gens utilisent principalement l'énergie de la biomasse. Nous les appelons à tous investir beaucoup dans la technologie.
Mon message aux États-Unis et au président Biden est de travailler dans des domaines qui renforcent davantage les relations africaines des États-Unis, en accordant la priorité aux intérêts continentaux de l'Afrique.
Le message que j'ai pour les États-Unis et le président Biden est d'avoir de plus en plus d'initiatives pour les pays d'Afrique du Nord et de renforcer leurs relations, notamment en ce qui concerne les questions climatiques et sanitaires. Nous voulons également que les États-Unis aident à la reprise post-pandémique du Zimbabwe afin que davantage de vaccins continuent d'être déployés, car selon certains chercheurs, il y aura une pénurie de vaccins d'ici 2023.
My message to President Biden and the United States at large is that
Mon message au président Biden et aux États-Unis en général est le suivant. En tant que Rwandais et Africains, nous nous félicitons du partenariat entre les États-Unis et les pays africains. L'administration Biden doit s'efforcer de faire en sorte que le partenariat entre les États-Unis et les Africains soit fondé sur la compréhension mutuelle, le respect des valeurs et des cultures des États-Unis et des États africains, bien sûr.
Le message que j'ai pour les États-Unis et pour le président Joe Biden, c'est qu'ils doivent assumer la responsabilité des rôles qu'ils ont joués dans des pays en guerre et des pays en proie à des troubles comme la Palestine, la Syrie et l'Irak.
Les États-Unis doivent faire tout leur possible pour s'assurer que les choses qui nous arrivent directement ou indirectement sont des choses auxquelles nous participons de manière significative, en nous plaçant au centre de chaque action ou décision qu'ils prennent, en particulier les problèmes, les défis auxquels le monde est confronté, comme la crise humanitaire, l'insécurité, la nourriture, la santé et tout le reste. Même le changement climatique, je pense que ce sont des choses auxquelles nous contribuons directement ou indirectement. Donc, ils doivent s'assurer que nous faisons vraiment quelque chose à ce sujet et que nous nous y engageons de manière significative.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 10 civils ont été tués par des rebelles ADF dans le nord-est de la RDC. C'était hier, lors d'une incursion menée dans le village d'Ondlaya, en territoire du Romo, dans le sud de la province de l'Ituri. Le chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, condamné à 30 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a été transféré de la haie vers la Belgique, a déclaré ce mercredi la Cour pénale internationale. Au moins 166 personnes ont été tuées et 237 autres blessées en 4 mois dans des affrontements entre milices armées dans le nord-ouest du Soudan du Sud, a affirmé ce mercredi le haut commissaire des droits de l'homme de l'ONU. Le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde a atteint un nouveau record en 2002. Ils sont 533 selon le bilan annuel de RSF publié ce mercredi. Plus de la moitié des journalistes emprisonnés dans le monde au 1er décembre le sont dans 5 pays, la Chine, la Birmanie, le Vietnam et le Bélarus. Le nombre de journalistes tués est également en hausse, notamment à cause de la guerre en Ukraine, alors qu'il était historiquement bas en 2021 et 2020. Le président Joe Biden a estimé aujourd'hui, 10 ans après la tuerie dans l'école de Sandy Hook, que l'Amérique a une obligation morale de réguler davantage les armes à feu et devrait se sentir coupable de ne pas l'avoir fait. Le journal de la Coupe du Monde. Dans moins de 20 minutes, le coup d'envoi de la deuxième demi-finale entre le Maroc, dernière nation africaine dans le tournoi, contre la France, champion en titre. Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Déjà entré dans l'histoire, en devenant la première nation africaine et arabe à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, le Maroc d'Achraf Hakimi veut aller jusqu'au bout, foi de son entraîneur Walid Regragui. En face, la France de Kylian Mbappé court après un troisième trophée en Coupe du Monde, le deuxième d'affilée. Les Bleus sont soutenus par leur président Emmanuel Macron, présent au stade. Hier, pour la première demi-finale, il n'y avait de la place que pour un seul ballon d'or en finale. Et c'est le plus grand, celui qui l'a gagné cette fois, qui a pris le biais. L'Argentine de Lionel Messi a balayé la Croatie de Luka Modric 3-0. L'Argentine attend désormais de pied ferme la France ou le Maroc pour une finale inédite dimanche au stade de Lusail à Doha, de la capitale qatarienne à Buenos Aires. En Argentine, les millions de fans de l'Albi Céleste ont explosé de joie. Michel Joseph.
Drapeau en main, perché sur des toits ou grimper le plus haut possible, décidément, tous les moyens étaient bons pour les supporters argentins pour leur joie après la qualification de leur équipe nationale pour la finale du Mondial 2022. La place de la République à Buenos Aires a refusé du monde.
Excité parce qu'il n'y a pas mieux que jouer une finale. On ne peut pas espérer mieux. En tant qu'Argentin, c'est une émotion et un sentiment incroyable.
En toute honnêteté, cela fait longtemps que nous attendions que cela se reproduise. Nous avons pleuré les finales que nous avons perdues pendant des années. Mais nous voici à nouveau à une nouvelle finale. Je suis heureux et excité.
L'Albi Céleste s'est qualifié pour sa sixième finale de Coupe du Monde avec une prestation XXL de sa Pulga. Lionel Messi, auteur d'un but et d'une passe décisive, a sorti du stade de Lusail à Doha. Les supporters argentins ne tarissent pas d'éloges pour celui qui porte jusqu'ici leur équipe nationale.
Messi, aujourd'hui, ses actions étaient spectaculaires. Nous en profitons, nous sommes très heureux, nous le méritons, Messi le mérite.
Il nous a régalé, c'est toujours notre préféré. Peu importe la qualité, nous le célébrons jusqu'à la mort.
C'est impressionnant, incroyable de voir Messi jouer comme ça, sachant qu'il était blessé parce qu'on a vu qu'à un moment du match, il s'est touché la jambe. On avait un peu peur, mais l'équipe a joué. Toute l'équipe a donné son maximum et nous sortons du stade heureux. C'est pour ça que nous sommes venus ici.
Dimanche, dans ce même stade de Lusail, où les Argentins ont vraiment pris leur habitude, la Pulga reviendra chercher le seul trophée qui manque à sa carrière de géant du jeu. Il s'agira de la sixième finale mondiale de l'Albi Céleste, qui en a perdu trois, dont une avec Maradona en 1990 et une avec Messi en 2014. Et en a gagné deux, une avec Maradona en 1986, mais aucune avec Lionel Messi.
La Croatie a vraiment proposé trop peu pour retourner en finale après son exploit de 2018 et son merveilleux milieu de terrain Luka Modric a sans doute parfois trop bien dissimulé une production offensive famélique. Le président de la Croatie, Zoran Milanovic, a assisté à la défaite de son équipe nationale lors d'une visite officielle au Chili. Entouré de Chiliens et Croates, nous vous proposons sa réaction.
L'Argentine nous a infligé ce premier but sur un pénalty inventé. C'est aussi un problème. Je ne veux pas croire que quelqu'un ait des sympathies particulières pour l'Argentine à cette Coupe du Monde, mais on leur a inventé deux, voire trois pénaltys. On verra contre qui nous allons jouer pour la troisième place. Mais si la France passe en finale, l'Argentine va encaisser cinq buts. C'est mon pronostic. Ils vont le trouver, 100%. Peut-être que je me trompe parce qu'ils méritent ça.
Zoran Milanovic, président de la Croatie, à la sortie du stade, Poutine est vaincre au-dessus de la Croatie. C'est l'analyse du match d'Élisée Mpatine, journaliste sportif joint à Boycon au Bénin.
Oui, l'Argentine était supérieure à la Croatie qui n'était pas dans un grand jour, il faut le reconnaître, un coaching gagnant après de Scaloni qui était dans un rôle qui lui va bien attendre et posséder par des contres. C'est ce qui s'est passé avec une fois encore Messi qui a totalement changé le match avec la passe du troisième but. Il a simplement fait la différence à lui tout seul face aux Croates peut-être fatigué après avoir, rappelons-le, disputé deux prolongations face au Japon et surtout face au Brésil dans un match quasi explosif.
Élisée Oupatine, journaliste sportif. C'est ici que nous refermons cette rubrique spéciale consacrée à la Coupe du Monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous suivez cette édition du Monde aujourd'hui. Eric Manelakiza de retour avec vous. Place au dossier du jour. 49 chefs d'État et de gouvernement africains sont à Washington pour le deuxième sommet Afrique-États-Unis. Idriss Fall a eu un entretien exclusif avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui exprime ici ses attentes pour son pays.
Le Niger attend de ce sommet que les États-Unis écoutent la voix de l'Afrique, qu'ils prennent plus amplement connaissance des problèmes auxquels nous sommes confrontés et sur lesquels nous espérons leur écoute et leur engagement en vue de retrouver des solutions. Nous avons la question sécuritaire au Sahel sur laquelle nous proposons de sensibiliser les autorités américaines. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer un certain nombre et avec lesquels j'ai eu des échanges très utiles pour l'avenir. Par exemple, nous sommes confrontés au phénomène du changement climatique avec tous ses effets désastreux sur nos économies, sur nos modes de vie. Je me suis appliqué à expliquer à mes interlocuteurs que la violence terroriste qui prévaut dans le Sahel a partie intimement liée avec le changement climatique parce qu'elle remet en cause le mode de vie pastoral. Nous assistons à une raréfaction des ressources naturelles et une grande compétition sur ces ressources-là. Là également, les États-Unis doivent pouvoir nous entendre pour notamment nous soutenir. Non, il n'y a pas eu de promesses. Tous les entretiens que j'ai eus ne sont pas de nature à donner lieu à des promesses, ils sont plutôt dans une phase de coûte.
Vous sortez mais de la COP27 et vous aviez plaidé aussi la même cause. Et
oui, alors tout à fait. Voilà, donc nous réitérons ce que nous avons dit à la COP27. Nous disons au gouvernement américain que nous avons besoin de projets d'infrastructures, surtout dans le domaine du chemin de fer, des routes.
Pour aller directement dans la lutte contre le terrorisme, j'ai l'impression que les États-Unis sont déjà présents au Niger.
Oui, tout à fait.
À quel niveau, quelle l'importance de la présence militaire américaine?
Les Américains interviennent dans la formation de nos forces spéciales, dans leur équipement. Ils interviennent beaucoup dans leur renseignement parce qu'ils ont des drones. Ils coopèrent surtout avec les Français dans le domaine du renseignement et nos services coopèrent avec les uns et les autres. À Troyes, je pense que nous avons une très belle coordination qui est très utile, qui est efficace, vraiment utile comme je viens de le dire. Les Américains, hier seulement, ils nous ont remis un avion C-130 de transport de troupes. Il y a de cela une année, ils nous en avaient donné un autre. Ce sont des avions qui coûtent extrêmement cher et qui sont très utiles. Nous n'aurions pas pu les acheter nous-mêmes. L'intervention des États-Unis dans notre combat contre le terrorisme est très importante, elle est très utile et efficace.
C'était le président Bazoum du Niger au micro de Idriss Fall. Le président Azali Assoumani de l'Union des Comores se trouve également à Washington. En marge de ce sommet USA-Afrique, il déclare que les rapports sur les abus des droits de l'homme dans son pays ne sont pas fondés et revient également sur l'arrestation de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. C'est dans une interview accordée à la VOA au micro de Marius Mohunga.
Ce sommet il est arrivé à point nommé, hein, parce qu'effectivement, les États-Unis sont une puissance, la première puissance du monde. Effectivement, le fait de collaborer, de travailler avec ces puissances-là, je pense que c'est pour l'intérêt de tous les pays, bien sûr, en Afrique, Donc nous, c'est quand même venu à point nommé sur ce nez. Donc je pense qu'on va pouvoir capitaliser et puis tirer toutes les leçons qui seront au profit de nos pays.
Le département d'État américain a fait état des violations des droits humains ou comment votre pays et de l'impunité par rapport justement à ces violations. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président?
Mais je dis que ce n'est pas vrai. J'en ai discuté avec beaucoup d'autorités américaines. Il y a eu des rapports qui ont été faits, qui n'ont pas été fondés, qui ont été faits n'importe quoi. Donc nous, on a été victimes de ces rapports-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup à faire. Mais venez au Comore, vous allez voir, les droits de l'homme, les libertés, c'est quelque chose de d'idoine. C'est quand même une richesse. Il y a beaucoup à faire, mais dans le cadre de ce pays qui s'appelle le Comore, je peux vous rassurer, la tolérance des droits de l'homme, c'est quelque chose de fondamental.
Pourtant, on parle de l'arrestation de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, qui a été condamné à la prison à perpétuité de 4 ans et des détentions préventives. Ses avocats, par contre, dénoncent une parodie de justice.
C'est normal, les avocats. Mais est-ce que c'est le seul président du monde qui a été mis en prison, qui a été jugé? Combien de présidents sont jugés? Pourquoi on est en train de stigmatiser ce côté comorien alors qu'on voit dans les grands pays que vous le connaissez comme moi, des chefs d'État ont été condamnés? Écoute, personne au-dessus de la loi. Effectivement, il y a des lois comoriennes. Malheureusement, l'ancien président ne les a pas respectées. Mais c'est à nous de tirer les leçons pour que ça serve de leçon pour ceux qui viennent.
Mais pourtant, selon mes informations, il est accusé dans l'affaire des passeports. Ces passeports continuent à être vendus aujourd'hui dans votre pays.
Non, surtout pas. Ça, j'ai arrêté. On ne vend pas les passeports. Le problème des passeports, les gens sont en train de voir l'argent. Ce n'est pas l'argent. Comment aujourd'hui, il y a une loi? Tous les pays du monde, chaque pays a un règlement pour donner la nationalité. Ce n'est pas de l'argent. On respecte. Il était chef de l'État. Pourquoi il n'a pas changé la loi pour la mettre à la façon qu'il veut? Mais il y a une loi qui dit qu'on fait ça. Il prend le passeport du Vabranga. Pour nous, c'est vendre le pays.
Entre-temps, Monsieur le Président, ces passeports ont quand même été vendus. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et ça se trouve où?
Ça, justement, ça, c'est la question. Pour moi, très sincèrement, bon, là, la question, c'est que non seulement il a violé la loi, mais personne ne sait l'argent qui est venu du passeport, où est cet argent-là.
Et les découvertes en ressources gazières, notamment, ont donné beaucoup d'espoir au peuple comorien. Mais au moment où le monde aujourd'hui parle de la transition pour éviter les énergies fossiles, pour lutter contre le réchauffement climatique, comment est-ce que vous comptez vous y prendre?
Je peux vous rassurer que le Comore, on est un petit pays en surface, en population. Et que si on mise sur les énergies renouvelables, ça peut effectivement répondre aux questions énergétiques comores.
C'était le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, au micro de Marius Muhunga. Vous pouvez suivre les deux entretiens du président Bazoum du Niger et celui du président Assoumani de l'Union des Comores sur votre site internet voafrique.com et sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube VOA Afrique. À marge justement de ce sommet États-Unis-Afrique, la diaspora africaine s'est donné rendez-vous devant la Maison Blanche pour faire entendre sa voix. Le leader de l'opposition au Tchad, Succès Mastra, a participé dans cette manifestation. Il s'exprime au micro d'Okoy Gwahinga.
Je suis venu ici, comme vous pouvez l'entendre, rejoindre au panafricanisme, mais je dirais aux combattants de la liberté, du Venezuela au Tchad, du Sud-Soudan en Égypte, etc. La dignité humaine n'a pas de frontières, parce que nous sommes tous créés à l'image d'un être suprême, et la dignité humaine est quelque chose que tout le monde attend. J'ai dû quitter mon pays, le Tchad, parce qu'il y a quelques semaines, mon peuple qui se mettait debout pour exiger le respect par la gente, des engagements qu'il a pris, deux engagements. Un, de remettre le pouvoir à une équipe civile après 18 mois. Et deux, d'organiser des élections démocratiques auxquelles ils ne prendront pas part. Ils n'ont pas respecté cet engagement pris devant l'Union africaine, devant les Nations unies, devant la communauté internationale, mais surtout devant notre peuple et devant même Dieu. Ils n'ont pas respecté cet engagement. Au contraire, ils ont tué, il est sorti plus de 300 d'ailleurs, des cadets qui sont sortis. Plus de 200 sont portés disparus. Plus de 2000 ont été arrêtés. Et moi-même qui vous parle, ils sont venus arrêter aussi des dizaines de mes militants directement dans le ciel qui sont allés tuer, égorger et jeter dans le fleuve. Tout ça montre bien que nous arrivons à quelque chose de terrible avec des circonstances aggravantes que nous avons portées d'ailleurs à l'attention des Nations Unies. Et donc, nous sommes là pour, en tout cas, élever la conscience du monde sur ce qui est en train de se passer au Tchad, pour dire que nous ne devons jamais laisser je dirais, l'obscurité de la dynastie prendre le dessus de la lumière de la démocratie. Et mon peuple, qui est un peuple jeune, qui est un peuple courageux, qui s'est mis debout pour la démocratie, aujourd'hui a besoin des vrais amis qui vont l'aider d'une certaine manière à accomplir ce que j'appelle le droit à l'autodétermination de notre peuple. Et je me sens d'autant plus légitime de venir ici porter ce message que moi, je suis le petit-fils de cet Iraïr qui, à un moment donné, ont répondu à l'appel à l'aide des Français, par exemple, pour les libérer du joug allemand. Mais les Américains savent aussi que, par exemple, le général français Lafayette a été utile pour la libération des États-Unis lorsque les États-Unis s'organisaient pour la guerre d'indépendance. Donc, d'une certaine manière, je suis venu ici aux États-Unis pour porter la voix de ce peuple-là qui exige la démocratie, mais aussi pour dire que le Tchad et l'Afrique ont besoin des États-Unis à ses côtés pour ce que j'appelle le triangle de la libération collective. Hier, il y avait le commerce triangulaire. Aujourd'hui, nous avons besoin plutôt de la libération triangulaire, d'une certaine manière. Et donc, les continents peuvent s'entraider, les peuples peuvent s'entraider, les leaders peuvent s'entraider au nom des valeurs communes qui sont les valeurs de la démocratie. Voilà le mobile de mon séjour ici, avec l'objectif de repartir vers mon peuple pour nous battre afin que la démocratie soit la réalité du Canada.
Succès Mastra, leader de l'opposition au Tchad du parti Les Transformateurs. En RDC, plus de 140 morts. C'est le dernier bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa la nuit du mardi. Selon le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a annoncé ce bilan mardi soir, un deuil national de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du pays pour pleurer ses morts. Daniel Asselo a aussi annoncé la décision du gouvernement de détruire toutes les constructions sur les terrains accidentés. Face aux énormes dégâts enregistrés, la société civile réclame des sanctions. C'est dans ce reportage signé Alex Katikatai, notre correspondant à Kinshasa.
Sur les images qui circulent dans les réseaux sociaux depuis mardi en fin de matinée, des scènes de désolation, des maisons inondées, des personnes qui s'accrochent à presque rien pour ne pas couler avec les torrents, des corps sans vie repêchés des eaux et des décombres. Kinshasa est en deuil. Sur instruction du président Tshisekedi, un deuil national de 3 jours est décrété pour pleurer les plus de 141 morts, affirme Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
L'organisation d'un deuil national pour 3 jours. Le Congo est en deuil. L'option vient d'être levée pour que ce deuil-là se fasse à travers les communes. Nous allons fixer des sites effectivement pour ne pas contraindre nombreuses familles à pouvoir se déplacer de chez elles et venir à un seul endroit.
La ville a connu une pluviométrie anormale en cette seule nuit du mardi, selon la Metelsat. C'est la plus forte pluviométrie en une seule journée de ces 30 dernières années, affirme l'agence dans un communiqué. La Metelsat précise qu'en cette seule nuit, plus de 150 000 litres d'eau sont tombés à Kinshasa. Un record pour une journée. La société civile appelle à des sanctions face aux dégâts énormes enregistrés. Jonas Tombela, de la nouvelle société civile du Congo.
Nous pensons qu'il y a une bonne part de responsabilité de l'État congolais à travers son ministère des Affaires foncières, urbanisme, tous ceux qui s'occupent de toutes ces questions liées au lotissement.
Après une réunion mardi soir entre le Premier ministre, quelques membres du gouvernement et le gouverneur de Kinshasa, le gouvernement a décidé de la démolition de toutes les constructions sur les terrains accidentés. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi.
Les chances de voir cette énième décision de destruction des logements anarchiques s'exécuter restent minimes. On observe souvent dans ce genre de situation un bras de fer entre l'autorité provinciale et le gouvernement central. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on responsabilise le gouvernement central. Godem Poy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
La ville de Kinshasa n'a aucun pouvoir de démolir des maisons sans le visa du gouvernement central. Toutes ces constructions anarchiques sont couvertes par les arrêts priorité du gouvernement central.
Les obsèques des victimes seront prises en charge par le gouvernement central. Le président Tshisekedi a même écourté son séjour de travail aux États-Unis pour venir faire le deuil avec sa population, affirme la présidence de la République. Alex Katikataï, Kinshasa, VO Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Eric Manelakis a été avec vous à la présentation. Michel Claire-Joseph a assuré la mise en onde. Merci à toute l'équipe de production. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Vous pouvez continuer de nous suivre sur VOA Afrique et sur voafrique.com. Au revoir.